Corps, amour, sexualité. Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes bien sur Radio Kaléidoscope, vous écoutez l'émission Calibre. Donc ce soir, pour vous accueillir, vous avez Émilie et Mélanie au micro. Et à la technique, il y a Myriam et au téléphone, c'est Marina.
Voilà, et Calibre, c'est une libre antenne, ça veut dire que vous pouvez nous appeler pour discuter avec nous sur des questions de corps, de relations, de sexualité, voilà.
Voilà, vous pouvez appeler pour témoigner de quelque chose, parce que vous posez des questions, parce que, bon, plein de choses, quoi. Donc, on va peut-être écouter une petite musique...
Avant de démarrer,
donc on va écouter Coussin Rouge de Quartet Buccal.
Marie s'assoit sur son coussin avec un petit brin d'émotion. Ce bout de tissu qu'à l'air de rien navigue entre générations. Dès demain, Marie l'offrira à sa fille qui pour de bon devient femme puisqu'elle a des seins, ses règles et de suaves sensations. Coussin rouge brodé à pois, d'où il vient ça, on ne sait pas. On se transmet de mère en fille, il faut dire que dans la famille, les femmes c'est pas de la gnognosse, des demi-sèvres, des chochottes. On se transmet de mère en fille, il faut dire que dans la famille, les femmes c'est pas de la gnognosse, des demi-sèvres, des chochottes.
Marie avait reçu de sa mère ce petit coussin rouge et soyeux. Maintenant ma fille t'es l'héritière, prends-en soin, il est précieux.
Abandonne-lui ton doux derrière, dès qu'un homme brutal ou mielleux cherche à remplacer ton père, se prend pour ton maître ou ton dieu. Je me suis battue une vie entière contre le sexisme en première ligne. Souvent on m'a traité de sorcière, de mal baisé, de mec, de queen. Mais souviens-toi de mes Pauline qui s'envoyait en l'air avec des Jules au Jean James Dean, chantant pas question que je m'enterre avec un vieux qui découline. Un coussin rouge brodé à poids, sans style usé,
tout à plat.
On le reçoit quand on est libide, et là toute la famille jubile. Faut dire que de temps en temps, frangine, les femmes se battent la gélatine. On le reçoit quand on est libide, et là toute la famille jubile. Il faut dire que les frangines, c'est pas de la gélatine.
Rappelle-toi de Tata Simone, qui écrivait des vers scandaleux. C'est gosillant comme une lionne, militant et crachant le feu.
C'était pour que toi, ma mignonne, tu puisses être et vivre ce que tu veux.
Ce vieux coussin comme une bobonne, alors qu'il y a manif au lycée. Faudrait que tu te bouges, moi je bouillonne. Égalité, c'est pas gagné. Et ça me débecte qu'on se questionne encore à propos de parité. Un coussin rouge brodé à pois, qui a vécu de drôles combats. Marie le lègue à sa gamine, c'est mieux que des recettes de cuisine. Va falloir reprendre le flambeau, y'a encore du boulot. Marie le lègue à sa gamine, c'est mieux que des recettes de cuisine.
Vous êtes toujours sur Calibre et alors on on voulait vous dire un petit peu ce dont on allait parler aujourd'hui dans l'émission. Enfin, après, on pourra parler d'autres choses s'il y a des personnes qui nous appellent. On avait envie un peu de revenir sur l'appel de Yaz de la semaine dernière qui parlait un peu de la pression qu'il pouvait avoir pour avoir des érections longues et durables et dures et tout ça. Et puis, on parlera aussi de... Tu veux nous dire, Émilie ?
Ouais, on avait pensé rebondir aussi sur ce que Greg racontait sur les personnes trans et les parcours trans, et d'un point de vue dont on n'a pas forcément souvent parlé à Calibre. On a beaucoup parlé des transidentités et des parcours de transsexualisation sous des aspects... techniques, médicaux, juridiques, sur des questions politiques aussi, avec les différentes luttes associées contre la psychiatrisation, sur les droits humains, de la reconnaissance de cette discrimination transphobe, quoi, qui existe encore beaucoup. Donc on a beaucoup parlé de ça déjà, et on s'était dit qu'on avait envie aujourd'hui d'aborder un petit peu plus le côté, l'aspect humain et relationnel, et comment être bienveillante auprès des personnes trans qui peuvent être dans ton entourage, quoi. Voilà.
Moi, je voulais faire un petit rappel aussi, parce que je crois qu'on a un appel maintenant. Si vous aussi, vous avez envie d'appeler et de réagir, sachez qu'en fait, on a une seule ligne téléphonique. Du coup, faudra attendre que la personne ait raccroché pour pouvoir nous joindre, malheureusement. Donc, si vous aussi, vous avez envie de nous appeler, prenez patience. En tout cas, là, on accueille Chloé. Bonsoir, Chloé. Bonsoir Chloé, on t'entend pas pour le moment.
Je vous entends.
Allô. Bonsoir Chloé, tu nous entends?
Oui, ça y est, je vous entends maintenant.
Ah, nous aussi, super. <C'est parfait>. Tu veux nous raconter pourquoi tu nous appelles?
Oui. Alors du coup, en fait, moi, j'avais envie de témoigner de mon expérience de mon avortement l'année dernière.
Ouais.
Et en fait, j'avais plutôt envie de partager peut-être les questionnements et puis ce que ça a fait un peu, ça a provoqué un peu chez moi comme constatation mon expérience.
Ouais.
Et du coup, peut-être pour en parler un peu plus, parce que j'ai trouvé que l'avortement, c'était un sujet, ben, quand je l'ai vécu, que j'ai vécu vraiment comme tabou.
Ouais.
Et je trouve que peut-être d'en parler à l'antenne, certaines personnes, si elles le vivaient pas très bien ou qu'elles savaient pas trop comment ça se passe ou à qui en parler, bah peut-être, je sais pas, leur redonner un peu confiance ou leur donner envie d'en parler, parce que je trouve que c'est important.
Alors tu veux déjà nous raconter comment ça s'est passé pour toi, qu'est-ce qui, enfin voilà, la procédure, quoi.
Ouais. Donc en fait, moi, j'ai découvert que j'étais enceinte, parce que je le savais pas, en allant chercher les résultats de tests sur l'IVG, sur les maladies sexuellement transmissibles, chez ma gynéco, au planning familial. Mmh. Donc en fait, on avait fait ces tests-là avec mon copain, avec qui j'y étais à ce moment-là encore. Et puis, moi, j'allais juste chercher les tests. Et en fait, elle en a profité pour me faire un petit check-up général de gynéco, quoi. Et en fait, c'est en faisant mon check-up qu'elle a trouvé que mon utérus était un peu gonflé. Et moi, en fait, quelques jours avant, j'avais fait un test de grossesse et il était négatif.
D'accord.
Donc je m'attendais vraiment pas du tout à ça déjà. C'est que elle m'a fait refaire un test et c'est là que on blablatait, et après le test il a viré au positif, donc j'ai appris comme ça de but en blanc sur son bureau, quoi.
D'accord, parce que c'était un test urinaire qu'elle t'a fait faire.
Ouais.
C'est ça. Donc avec une réponse immédiate, hein, parce que je rappelle pour les autres personnes qui nous écoutent, il y a deux manières il y a soit les tests urinaires qu'on peut faire où on fait pipi sur une petite languette et puis hop, s'il y a un trait ou deux traits, ça veut dire qu'on est enceinte ou pas. Et deux traits, ça veut dire qu'on est enceinte, il me semble, et un seul, on l'est pas. Et sinon, on peut faire aussi des tests sanguins qui peuvent aussi nous dire si on est enceinte ou pas.
C'est ça. Donc c'est vrai que en fait à ce moment-là, c'était entre midi et deux, je retournais travailler l'après-midi et en fait juste enfin pour moi dans ma conception des choses, c'était vraiment la pire chose qui pouvait m'arriver quoi. Parce que moi la seule et dernière fois que j'ai dû entendre parler de procédure d'avortement, ça devait être en quatrième en SVT, un truc qu'on nous expliquait comme ça et après j'en ai jamais reparlé quoi.
Parce que la gynéco quand donc elle t'a annoncé tac ben en fait ouais,
vous
Chloé
êtes
vous êtes enceinte qu'est-ce qu'elle t'a dit par après
bah en fait c'est là que ça a un peu commencé à me paraître enfin c'est ouais c'est là que ça a commencé à me mettre un peu mal, c'est parce qu'elle s'est mordue la lèvre, puis c'était un regard de complètement de pitié et d'alerte dans ses yeux, et moi je me sentais quand même super mal, et puis du coup direct, j'ai dit, je lui ai même pas laissé le temps de parler, en fait j'ai dit, je veux pas le garder, en fait, comment ça se passe ? Parce que là je me suis vraiment retrouvée dans la situation où pourtant je suis quelqu'un, enfin je m'informe beaucoup, et au final j'ai plein d'amis qui sont dans plein de collectifs féministes, j'avais l'impression de savoir et là je me suis retrouvée complètement démunie quoi et donc voilà bah là elle m'a expliqué les différentes procédures donc elle m'a dit qu'il y avait la procédure qui était souvent faite, c'est comme ça qu'elle me présentait, donc c'était en avalant des petites pilules, donc deux, avec si par exemple on en prenait la première le lundi, la seconde c'était le mercredi matin, et la première a stoppé la grossesse, et la deuxième avortait quoi.
Ouais, elle provoquait l'expulsion.
Ouais, c'est ça. Donc voilà, et sinon par aspiration, donc là une plus grosse opération, voilà, une autre opération en fait. Du coup c'est comme ça qu'on m'a présenté et on m'a dit qu'il fallait que j'aille voir à la maternité parce que donc moi j'habite à Chambéry et donc à Chambéry, enfin il n'y a pas de centre IVG ou je sais pas quelque chose qui pourrait nous informer ou nous accompagner, c'est faut aller à la maternité en fait.
D'accord. Ouais.
Et là au sein de la maternité il y a un service qui va s'occuper des personnes qui veulent avorter. Donc c'est hyper spécial je trouve comme ambiance déjà parce que moi je suis arrivée à la maternité et je sais pas comment expliquer, alors je suis peut-être un peu fragile j'en sais rien mais c'est vrai que là les personnes elles viennent avoir un enfant quoi et moi j'arrive parce que j'ai pas envie de le garder et finalement même si c'était vraiment mon choix et tout du long ça peut peut-être se ressentir dans mon témoignage mais j'ai jamais du tout hésité à aucun moment de sur ce choix-là, mais n'empêche que j'ai vraiment senti de la part des médecins qui m'ont accueillie et des infirmières, je me suis vraiment sentie dans la culpabilité, quoi. Pour ce que j'avais fait, alors que j'avais l'impression qu'en fait, au final, c'était vraiment la fin du monde de faire un truc comme ça, qu'une femme, elle est faite pour avoir des enfants, et que là, moi, je faisais pas ça, et finalement, depuis le début, c'est un peu ça que je ressentais dans les discours, et que j'aurais pu faire attention, quel moyen de contraception j'avais, comme si j'étais en faute, en fait.
Ouais, t'as infantilisé... Comme si toi tu savais pas comment faire pour éviter de tomber enceinte, qu'un accident que ça pouvait pas arriver quoi, que c'était forcément un échec de ta part et
ouais c'est exactement ça. Et donc du coup en fait moi il y a des choses que j'ai ressorties mais vraiment par la suite c'est que j'en ai parlé avec une de vos connaissances à Grenoble, et donc à Libre, et que je remercie beaucoup parce qu'en fait, je sais pas si elle s'est rendue compte que notre conversation, elle m'a fait un bien phénoménal. Moi, je me sentais pas du tout informée, je savais pas à qui m'adresser, et finalement, j'ai appris après, lors de cette conversation, qu'en plus, j'avais pas été vraiment bien accompagnée et qu'on m'avait un peu menti, quoi.
Parce
qu'en fait, moi, quand j'ai vu la médecin à la maternité, qui soit dit en passant était très gentille quand même, moi, elle m'a vraiment, vraiment dit qu'il fallait que je prenne les deux pilules, quoi. Parce qu'en fait, j'étais à un mois et demi après aménorrhée. Et elle me disait que si je voulais faire l'aspiration, c'était trop petit et qu'il y avait risque de pas pouvoir le prendre et que c'était trop dangereux. Enfin voilà, que ça valait pas le coup, que sinon il fallait que j'attende encore un mois avant de le faire.
Donc en fait, elle t'a orienté sur la méthode médicamenteuse en te laissant pas vraiment le choix, parce qu'en te sortant des arguments que après coup toi t'as découvert qu'ils étaient fallacieux, quoi, qu'ils étaient faux.
Donc du coup, enfin, c'est vrai que là, je déplore complètement l'information qui est faite aux femmes là-dessus, parce que moi j'ai vraiment trouvé ça scandaleux. Et donc, j'ai pris la méthode médicamenteuse. Enfin, j'avais pas envie d'attendre un mois que la petite vie qui se développait, elle continuait de se développer. Puis ça allait faire comme 2 mois et demi. C'est pas possible, quoi. Je trouvais ça déjà assez dur comme ça à vivre. Et donc, donc j'ai fait la méthode médicamenteuse. Je suis restée à l'hôpital pour la deuxième petite pilule à prendre.
Ouais.
Donc, là, on était 2 dans la salle, dans la chambre. Mm-hmm. Une autre fille qui avait 14 ans, qui avortait également. Et il y a un rideau qui a été tiré entre nous deux à partir du moment où on a mangé la pilule. Et moi, j'ai trouvé ça complètement impersonnel, en fait. C'est un moment où, pour moi, du moins, j'ai vraiment eu super mal. Enfin, la pire douleur de ma vie, quoi. Et il y avait mon copain, moi, à mon chevet, mais il avait vraiment super mal. Je me levais tout le temps pour aller vomir, pour aller, pour expulser tout ce qui était en train de sortir. Et il n'y avait qu'un seul chiotte, et elle faisait pareil. Donc, en fait, on se passait devant les lits, on s'entendait gueuler d'un lit à l'autre. Il y avait sa maman qui la culpabilisait en lui disant, mais tu vas voir, t'as vu ce que t'as fait, maintenant, assume, quoi. J'ai vraiment trouvé ça super impersonnel, quoi. Donc bon, bref, après, en discutant avec mon ami de Grenoble, je me suis rendu compte qu'en fait, j'aurais carrément pu avoir le droit à demander une opération par aspiration, en fait. La méthode de par aspiration. Ce qu'en fait, moi, à la base, je voulais.
Ouais.
Et puis, je me rends bien compte qu'aussi, c'est tout lié pour moi, c'est aussi vachement lié à la restructuration des services publics et aux budgets qui sont alloués pour certains postes. Et ça m'a vraiment encore plus scandalisée. Enfin, je me suis dit, mais c'est quand même, c'est super important. Et là, moi, j'ai eu aucun accompagnement. Et je savais que j'avais le droit à avoir une conseillère un peu psychique à l'hôpital parce que ma copine de Grenoble me l'avait dit, quoi.
Et ça, en fait, toi, t'a jamais proposé de le faire.
Non, parce que il me l'avait pas dit à l'hôpital.
Ah ouais.
Ouais.
Moi, ce que je voulais dire sur l'histoire aussi de ce que tu racontes là, que tu as trouvé ça impersonnel. Mmh. On a aussi le droit d'être chez soi quand on prend la deuxième pilule. Alors ça, c'est pareil, on nous le propose pas forcément, mais en tout cas, on peut rester à l'hôpital si on a envie, on peut aussi rester chez soi. Donc si on est accompagné d'une personne, puis on peut aussi décider de le vivre complètement seul si on a envie, mais en tout cas c'est moi, j'ai aussi vécu des avortements, puis j'ai aussi eu beaucoup de témoignages, et c'est vrai que ce que tu dis sur la question du choix, on nous la laisse jamais, quoi. Enfin, c'est toujours comme ça arrange. Et sur ce truc de pas forcément proposer la méthode chirurgicale, la par aspiration. Enfin, moi aussi, je trouve que ça va dans le sens de la restructuration de l'hôpital, etc. Parce que je pense que ça demande à l'hôpital plus de personnel, etc., une méthode chirurgicale. Et en fait, il y a de moins en moins de centres d'IVG ou de services dans les hôpitaux où se pratiquent des IVG. Donc, dans ce contexte où on veut rentabiliser à fond les actes médicaux, etc., et où il n'y a pas de personnel, effectivement, on va conseiller aux personnes qui avortent de prendre la méthode médicamenteuse si les personnes sont encore dans les délais. Pour que ça aille plus vite, quoi.
Et puis, du coup, sur ça, j'ai envie d'ajouter, moi, j'ai une amie qui est tombée enceinte et qui a avorté pas très longtemps après moi.
Ouais.
Et en fait, elle a pas du tout vécu l'avortement de la même façon, parce que elle est direct, elle m'a appelée et elle m'a demandé comment ça se passait, comment elle avait le droit. Et du coup, moi, je lui ai vraiment tout dit, ce que j'avais appris après. après coup pour moi, pour que elle, ben, ça, elle y arrive quoi, qu'elle y arrive, c'est-à-dire qu'elle ait le choix, qu'elle sache comment ça peut se passer, etc. Et donc elle, elle avait juste 2 semaines après aménorrhée et elle a choisi pareil l'aspiration et en fait, ben, elle est de Grenoble, elle a eu la méthode par aspiration, elle l'a faite, ça s'est super bien passé, ils l'ont endormie et puis elle avait demandé la pose du stérilet juste après en fait, donc ils l'ont fait pendant qu'elle était encore endormie. Donc elle, elle s'est réveillée et puis voilà quoi, elle m'a dit ça, j'ai l'impression que j'y avais été malade, qu'on m'a endormie, qu'on m'a enlevé le truc qui faisait que j'étais malade et puis voilà, elle l'a pas mal vécu quoi.
Comme quoi, ta morale de l'histoire, c'est que quand on est informé, on peut faire les choix qu'on veut et du bah coup ouais. vivre mieux ces choses-là, quoi.
C'est ça. Et ça, c'est, enfin, pour moi, c'est vraiment important. Du coup, c'est vrai que moi, j'aimerais bien. Là, j'ai pris contact avec des centres de planification parce que j'aimerais bien faire comme des formations pour bien savoir comment ça se passe, tous les choix et tout, pour faire des points d'écoute ou être bénévole dans des plannings familiales ou même militer encore pour les centres IVG ou enfin. Pour moi, c'est vraiment hyper important parce que là, c'est vraiment trop scandaleux. Puis en plus, bah moi, à se rajouter à ça, je passais de la mutuelle, enfin de la sécu étudiante à la sécu salariée. Donc, mon dossier, il était entre les deux. Et tant que mon dossier, il n'était pas validé par la sécu, ben, je pouvais pas payer l'hôpital et me faire rembourser. Donc, du coup, j'ai dû avancer l'argent. Et ça m'a coûté super cher, j'étais encore sous la mutuelle de ma mère qui prenait pas ça en compte, mes parents étaient pas au courant que j'avais un copain, j'ai dû les appeler pour leur annoncer ça par rapport à la mutuelle, enfin, c'était vraiment pas forcément évident le contexte autour, à retourner à la sécu plein de fois parce que ils avaient perdu mon dossier, à mettre des sonnettes d'urgence pour me faire rembourser, et ça a mis super longtemps, et mon copain était ingénieur et il a pu avancer de l'argent, alors j'ai vraiment pas à me plaindre par rapport à d'autres cas, quoi.
Et tu peux dire à combien ça...
Ouais, je sais plus, tout le monde me redemande et j'arrive plus à me souvenir. Je sais que comme un mutuel ne le prenait pas en compte, il y a à peu près, je crois que c'est à 200 euros que j'ai dû avancer moi.
D'accord.
Et donc j'ai pas été remboursée sur 200 euros. Mais là, pareil, on s'est partagé les frais avec mon copain.
Ouais.
Et puis sinon l'avortement, je crois que les frais d'hôpital, enfin parce que du coup voilà, il faut compter que moi j'avais passé la matinée à l'hôpital.
Ouais.
Je crois que c'était comme 1200, un truc comme ça.
Ah ouais. Mais en tout cas, moi je crois que les mutuelles, elles prenaient en charge systématiquement. L'avortement.
Bah en fait, ce qui se passe, c'est parce que ouais, moi j'étais plus étudiante. Et du coup, vu que j'étais encore sur la mutuelle à ma mère et qu'il y avait une histoire comme là, j'avais 21 ou je sais plus quoi passé, et ben ça fait que je pouvais plus être sous la mutuelle à ma mère.
Ah d'accord.
Donc forcément, nous on s'en était pas aperçu quoi, vu que c'était au moment du changement et j'avais pas encore repris de mutuelle à mon nom à moi.
Ouais, t'étais donc, pas dans les cases alors.
Ouais, ça a vraiment tombé dans l'entre-deux où je passais à la vie active en fait. Je venais de signer un contrat, mon premier contrat.
Bah ça alors.
Mais voilà, enfin c'est tout.
Bon, en tout cas, moi je voulais aussi que ça me fait penser, il y a un blog, on en a déjà parlé à Kalim, mais peut-être tu le connais pas encore, ou peut-être des personnes qui nous écoutent le connaissent pas encore, qui s'appelle IVG Je vais bien. Merci.
Je vais bien, merci.
Je vais bien, merci. Et en fait, où il y a pas mal de témoignages de femmes qui racontent leurs avortements et tout ça. Et moi, c'est drôle, je regardais un peu les témoignages dernièrement. J'ai avorté depuis 2010, depuis 2000, parce que c'est rangé par catégorie de période, en fait, parce que bon, les conditions d'avortement, elles évoluent suivant les époques. Et en fait, les personnes, elles disent toujours que, en fait, elles ont pas de problème avec le fait de se faire avorter, et que, enfin, la majeure partie des cas, en fait, mais que là où c'est douloureux, c'est toujours le parcours, en fait.
Ouais,
et il y en a certaines qui parlent du parcours de la combattante, ou je sais pas quoi, et que du coup, je trouve que c'est fou, parce qu'on dit, il y a souvent un peu cette idée comme quoi, vivre un avortement, c'est horrible au niveau moral et tout ça, c'est un choix trop difficile et tout, et je pense que ça l'est pour certaines femmes et tout ça, et que, mais ça ne l'est pas systématiquement. Mais qu'en tout cas, ce truc, que ça soit récurrent, que, waouh, c'est trop la galère, quoi, tous les professionnels, ils te renvoient des trucs trop culpabilisants, ils te donnent pas le choix, on t'explique pas, ça c'est hyper récurrent quoi.
Ouais, c'est clair. Enfin, non mais c'est vraiment vrai quoi. C'est pour ça que, enfin, pour moi, l'information là-dessus, c'est vraiment le meilleur des moyens, parce que, enfin, même pour l'accompagnement, pour tout, si t'as une personne référente qui te connaît, qui peut t'écouter, te conseiller, voilà, et ben, je pense qu'on se sent moins seul et on vit peut-être plus facilement la chose. Je sais aussi qu'il n'y a aucun moment où on a demandé à parler à mon copain et que mon copain, parce que bon voilà, moi c'est pareil, j'avais la chance d'être encore avec lui, qu'il a été là pour moi aussi. Et il l'a pas bien vécu parce qu'il s'est senti complètement exclu et à pas comprendre ce qui se passait. Et que du coup, bah, c'était toujours moi qui devais lui dire, il avait toujours un train de retard, quoi. Et que ça, il savait pas trop comment réagir, et que je trouve que même pour les femmes, même pour les hommes, des fois, avoir un point info où la personne, elle peut aussi répondre aux questions du mec, prendre les deux en considération, parce que le bébé, c'est peut-être la femme qui vit la grossesse ou ce moment où elle va avorter, mais l'homme, il est là aussi, il a sa part de responsabilité, et il a aussi envie, ou il a aussi le droit, du moins s'il le souhaite, de pouvoir avoir un professionnel ou une personne qui puisse répondre à ses questions et ses attentes, quoi.
Ouais, que ça, tu souffres, enfin, que la fille enceinte, elle soit pas toujours l'intermédiaire, quoi.
C'est ça, ouais, que c'est exactement ça. Parce que ça, c'est pas facile à gérer non plus, quoi. Voilà.
Ben, t'as d'autres trucs à nous dire à ce sujet?
Ouais, j'en aurais plein.
Bah vas-y, lâche-toi.
Profites-en.
Merci. Non, mais je sais pas. Ouais, non, peut-être pour terminer, il y avait l'après. Donc moi, j'ai voulu voir un psy.
Ouais.
Et donc je suis allée voir les conseillères familiales de l'hôpital. J'avais pris rendez-vous. J'ai attendu une demi-heure. Et puis au bout d'une demi-heure, je vais voir la secrétaire et je fais bah elle est pas là. Elle m'a oubliée. Ah bah ouais, elle a quelqu'un en fait. Ça dure trop longtemps. Puis dans son bureau, il y avait la deuxième conseillère et l'autre elle fait bon bah viens, c'est pas grave, moi je t'écoute. Bon ben d'accord. Et là elle fait ouais ben en fait moi j'ai pas de bureau, on va demander au médecin là si il peut pas nous laisser son bureau pour la demi-heure. Ok. Puis à la médecin elle se barre, ouais y a pas de souci. Deux minutes plus tard elle retoque, elle avait oublié un dossier. Bon ben voilà, sympa. Et là elle s'assoit puis elle me regarde, bon ben alors pourquoi t'étais venue rencontrer ma collègue? Ben en fait, je viens d'avorter, ça faisait vraiment 3 jours, quoi, un truc comme ça. Mm-hmm. Puis je crois que j'ai, en fait, ça va super bien moralement, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi ça allait bien. Mais je crois que j'avais envie simplement de, ouais, d'en parler pour analyser, accuser le coup, mm-hmm. Je sais pas, ouais, voilà, ça. Et puis en fait, elle m'a pas, enfin, c'était vraiment l'horreur, en fait, elle m'a pas du tout écoutée, enfin, je me suis vraiment pas du tout sentie écoutée, je me suis sentie jugée, puis surtout à la petite morale de fin, oui, mais bon, c'est un passage dans la vie, maintenant, faut vivre avec, puis c'est pas grave, quoi. Oui, non, mais j'ai pas dit ça, mais j'ai juste envie d'en parler, parce que, voilà, je me connais, je sais que des fois, moi, je vis toujours très bien les choses, puis il y a des trucs profonds qui s'enracinent, puis qui finissent par ressortir à un moment donné, quoi. Donc j'ai juste besoin, voilà, je sais pas. Et donc elle m'a pas du tout écoutée, donc je suis partie. Je suis allée au centre médico-psychologique, au CMP.
Ouais.
J'ai eu un rendez-vous parce que je bosse dans un centre social et que ma coordo, elle s'occupe de l'insertion sociale, donc elle a des contacts là-bas.
Ouais.
Et ça m'a évité de passer par une assistante sociale, parce qu'il faut savoir que sinon, on est pour avoir un rendez-vous avec des psys là-bas, donc c'est pas payant. On peut voir une assistante sociale qui nous oriente ensuite sur une infirmière psy qui juge entre guillemets de notre cas et qui ensuite nous donne un rendez-vous avec une psy.
Ouais.
Donc moi j'ai grillé un peu les étapes, je suis direct allée voir une infirmière psy. Et en fait, c'est moi qui ai fait la psy, quoi. Elle m'a raconté sa vie, puis elle a fini par me dire que, en même temps, avorter, c'était pas grave, et puis ça arrivait à tout le monde, quoi. Alors, j'ai fait, bah, d'accord. Enfin, bon, moi, ça m'a un peu fâchée avec l'accompagnement aussi derrière, quoi.
Ah ouais, j'imagine, ouais.
Donc, voilà. Ça, c'était mon dernier témoignage, et je crois que là, j'ai vraiment fait le tour de tous les trucs. Mais faut pas se démoraliser.
Et t'avais pas eu envie de retourner au planning familial, parce que c'était par là que t'avais commencé, en fait,
ouais.
Avec ce rendez-vous gynéco où on t'avait annoncé de but en blanc ta grossesse.
C'est vrai.
Là, du coup, ça t'a pas donné envie d'aller discuter avec les conseillères du planning? Ben,
en fait, les conseillères, j'en avais rencontré une avant.
Mm-hmm.
Avant l'avortement, en fait, parce que je passais au planning, quoi, et puis du coup, je l'avais rencontrée, et je l'avais pas, en fait, j'ai vraiment pas retrouvé aimable.
D'accord.
Et du coup, j'avais pas envie de retourner là-bas. Et puis, c'est vrai que je savais que je pouvais avoir quelqu'un à l'hôpital. Et du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, comme j'étais là-bas, voilà, ça m'a pas plu. Et puis, du coup, bah j'avais pas envie d'aller au planning parce que j'avais pas eu un bon feeling avec. Et du coup, je me suis dit, bah je vais aller passer par le CMP, quoi.
Ouais, puis après, t'étais, t'étais découragée.
Ouais, c'est clair.
Bah heureusement que t'as des bonnes copines avec qui on tchatchait quand même, alors.
C'est clair, c'est clair. Non, mais ça va, en plus, ça. Maintenant, c'est, ça va, quoi. Mais ouais, enfin, c'est pas un témoignage pour me plaindre ou démoraliser les gens. Au contraire, quoi, c'est pour dire qu'il y a encore plein de luttes et plein de choses à faire, que l'avortement n'en parle pas assez, que c'est pas parce qu'on a l'impression que c'est un droit qui est acquis que tout est facile et tout est simple, et que... Et que ça vaut le coup de s'intéresser à comment ça se passe, et peut-être, ouais, je sais pas, se regrouper, faire des points d'écoute, appeler Calibre. Bon, voilà.
Puis, je voudrais pas être pessimiste, mais je pense que les conditions d'accueil dans les centres IVG vont être de pire en pire, vu l'évolution des services publics, comme tu disais tout à l'heure. Alors, je pense que, en plus de, aujourd'hui, d'avoir des conditions pas toujours très satisfaisantes et de toute façon, un regard culpabilisant de la part des professionnels, je pense qu'il va y avoir encore quelques combats à mener dans les prochains temps pour maintenir ce droit, bien vivant.
C'est le cas de le dire. Ouais, ouais.
Ben, en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage.
Bah, de rien. Merci à vous pour la gentillesse et l'écoute.
Hein. Et ben, à la prochaine, n'hésite pas à rappeler si tu as d'autres témoignages sur d'autres sujets ou si tu as envie encore de faire un point sur l'avortement. il faut toujours en revenir. Faut pas se lasser.
Faut pas lâcher. Non, bah d'accord, bah écoutez, je vous souhaite une bonne continuation, puis à bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Alors, on n'aura qu'à enchaîner avec une petite chanson.
Ouais.
On va écouter, ah oui, c'est l'ABO d'un film qui s'appelle But I'm a Cheerleader, qui, je suis une pom-pom girl, donc c'est, bon, pour la petite histoire, c'est un film qui raconte... c'est une fiction hein, qui raconte l'histoire d'un centre de redressement pour les jeunes gays et lesbiennes. Et du coup, l'idée qu'ils ont, c'est voilà, c'est un centre de redressement où quand ils se doutent de l'homosexualité de ces enfants là, ils les réunissent dans une grande maison et puis ils essayent de les redresser. Quoi. Voilà. Donc c'est la BO de ce film. Ça s'appelle If You Should Try to Kiss Her, Dressy. Par Dressy Bessie.
To fail.
regardé ce film, moi, j'ai trouvé vraiment très, très drôle.
Oui, parce que ce que tu n'as pas dit, c'est que c'était une comédie, parce qu'un camp de redressement pour les gays et lesbiens, ça ne fait pas rêver.
C'est sûr. Alors, oui, puis il se passe du coup plein de choses étonnantes dans ce centre. Donc, vous êtes toujours sur Calibre et on va accueillir une Manu.
Salut Manu.
Salut, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors, dis-nous ce qui t'amène.
Eh ben, en fait, c'est une histoire personnelle qui m'est arrivée. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Donc, c'est aussi pour ça que j'appelle, parce que j'étais à la manif. Enfin, moi, j'habite Paris et j'étais à la manif à Paris. Et genre, on était 200 ou 300 et c'était juste lamentable. Et voilà, et donc enfin bon, je le fais tous les ans, donc à chaque fois je me dis mais ça va aller mieux et tout, et puis ben même pas. Et en fait bah moi ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai débuté il y a 2 mois une relation, enfin je suis lesbienne, avec une fille que j'ai rencontrée dans un festival de cinéma gay et lesbien. Et ben on a couché le premier soir où on est sortis ensemble. Et je lui ai en fait elle m'avait demandé comme ça si j'étais lesbienne. Alors j'avais rigolé parce qu'on est sortis d'un festival de on venait de voir un film lesbien et tout ça. Donc mais bon, je lui ai dit oui, et donc je lui ai dit et toi, elle me dit oui. Et en fait, j'ai su que quelques jours après, que j'étais sa première relation sexuelle lesbienne. Et tout ça, et que oui, elle pensait se définir comme lesbienne, mais en tout cas, jusqu'à il y avait encore une semaine, elle avait une vie sexuelle active hétérosexuelle, quoi. Et du coup, le premier soir, je lui ai montré une digue dentaire. C'est dur à trouver, j'en avais pas beaucoup, mais voilà.
Tu peux expliquer ce que c'est ?
Hein ?
Tu peux expliquer ce que c'est, une digue dentaire ?
Alors, c'est un rectangle ou un carré de latex ou de polyuréthane, je pense, qu'on pose sur la vulve, le vagin. On écarte les grandes lèvres et souvent on met du gel lubrifiant en dessous pour faire un cunnilingus, pour que c'est un moyen de protection pour que les IST ou le VIH ne puissent pas être transmis de muqueuse à muqueuse, c'est-à-dire de par voie orale, de bouche à sexe, voilà.
D'accord.
Et c'est pour les lesbiennes, c'est un des rares, c'est un peu le seul moyen de protection qu'on ait, avec les gants en vinyle ou en latex pour la pénétration vaginale aussi.
D'accord. Et ces digues dentaires, tu les trouves où ?
Dans des associations, c'est super rare. Moi, je les avais depuis 2 ans et elles étaient encore bonnes. Hein, j'avais regardé la date de péremption, voilà. Mais en réalité, j'ai beaucoup de mal à les utiliser avec mes partenaires, quoi. À chaque fois, ça passe pas. Et je suis peut-être pas assez persuasive aussi. Enfin, c'est pas toujours évident, quoi.
Ouais.
Et donc on a couché ensemble après on a discuté et puis on s'est revus le lendemain et tout ça, puis elle...
Attends, du coup je voulais, parce que je t'ai coupé un moment et je voudrais reprendre, tu disais donc tu lui as montré cette digue dentaire et pour le coup là avec elle ça s'est bien passé, c'est-à-dire qu'elle a accepté le truc et du coup vous avez eu du sexe?
Non, pas du tout, non. Elle a rigolé et elle l'a laissé de côté et elle l'a pas utilisé, quoi.
D'accord. Voilà.
Mais elle l'a regardé. Elle a regardé comment ce que c'était, quoi, comment c'était fait. Mais c'était plus.
Et toi, ça t'allait ?
Et moi, j'ai pas incité. Voilà, on est deux. J'ai autant ma part de responsabilité, c'est clair. J'ai pas insisté. Mais quelques jours après, en discutant avec elle, j'ai compris qu'elle avait une vie sexuelle super active. Enfin, elle est plus jeune que moi, on a 6 ans d'écart. Et donc, elle disait qu'en 5 ans, en gros, elle avait eu une quarantaine ou une cinquantaine de partenaires sexuels masculins. Mmh. Et c'était parti d'une boutade, je lui avais dit, j'avais compris qu'il y avait eu pas mal de monde avant moi, où j'avais dit, je suis sûre que tu te souviens pas de toutes les personnes avec qui t'as couché ou de leur nom, mais c'était pour rire, j'attendais pas de réponse en fait, et puis elle a commencé à énumérer, donc voilà, c'était c'était pas cool. Et après je lui ai dit stop, c'est bon, j'ai compris, ok, ça va. Mais a commencé à s'insinuer en moi l'angoisse, parce que aussi il y a une pratique que j'aime bien qui est une pratique sexuelle qui est le fist vaginal.
Ouais.
Donc qui est rentré le point à l'intérieur du vagin.
Ouais.
Et elle a voulu essayer sur moi, donc...
Une pratique que t'aimes bien recevoir.
Ouais,
c'est ça.
Qui est rare, qui j'ai besoin d'être en confiance, il faut que ça... Enfin, voilà. Mais, elle avait envie de le faire. Et je lui ai dit, ok, enfin, j'ai acheté des gants et tout ça. Mais en fait, je sais pas, au fur et à mesure de notre relation, enfin, en dehors de ça, ça s'est pas très bien passé, elle m'a fait mal et voilà, j'ai pas voulu, enfin, je lui ai dit on arrête.
Ouais.
Elle, je sais pas, elle gérait mal le lubrifiant, ou elle voulait aller trop vite. Voilà. Mais cette fois-ci, on a utilisé un gant. Voilà. Moi, je lui ai dit au bout de, je sais pas, une semaine, 10 jours de relation, je lui ai dit, moi, j'aimerais bien qu'on aille faire le test du VIH ensemble, si tu veux, je connais... un kiosque InfoSida, pas loin de chez moi, on peut y aller, c'est anonyme, c'est gratuit, tout ça, elle a commencé à... elle m'a dit, j'étais malade, je suis allée chez le docteur, et j'en ai profité pour lui demander de me faire le dépistage de plusieurs IST.
Ouais.
Et je lui dis c'est cool, t'as demandé lesquelles, et je lui dis à la fin, elle me dit alors je sais plus ce qu'il y avait, chlamydia, il y avait plusieurs IST. Ouais. Et je lui dis le VIH, elle m'a dit non, ça je n'ai pas demandé. Je lui dis pourquoi, elle m'a dit j'ai pas très envie. Et puis je l'ai jamais fait. Mmh. Et voilà. Là j'ai commencé à être insistante, à lui dire tu sais, on peut le faire ensemble, quoi, ce serait bien. Viens, on va au kiosque InfoSida, si tu veux je m'en occupe, on peut prendre rendez-vous et tout ça. Et en fait, ça a un peu traîné. C'est-à-dire qu'on s'est protégé après tout le temps. Mmh. Je sentais que c'était un sujet hyper délicat, le fait que parce qu'elle m'a dit j'ai l'impression que si on passe le test du VIH, c'est pour plus d'engagement dans la relation et tout ça. Alors elle me dit je comprends que ce soit important pour toi, mais peut-être qu'on n'en est pas de là. Et moi, j'étais pas du tout d'accord, quoi. On avait fait quand même plusieurs fois l'amour sans se protéger. Mm-hmm. Et juste, j'avais besoin d'être rassurée, quoi.
Ouais.
Elle ne me rassurait pas du tout.
Et toi, tu t'es pas, à un moment donné, dit que tu t'avais envie de le faire indépendamment d'elle, puisque elle résistait
Si, mais j'ai... Enfin, ça a pris du temps. Mmh. Il y a quand même le truc... Déjà, j'ai commencé à en parler autour de moi, mes amis, et ils m'ont tous dit, oh là là, mais les lesbiennes, c'est 1% des personnes touchées par le sida. C'est vraiment rare, tu sais. Il n'y a pas beaucoup de risques. Après, vous vous êtes protégés de toute façon. Voilà. Et donc, j'avais du mal à passer le pas, de faire le truc sans elle. Et voilà. Jusqu'au jour, au bout d'un mois et demi de relation, je lui ai dit, écoute, ça m'embête vraiment, quoi. Enfin, je trouve ça important et tout. Et là, ça a été notre première dispute. La seule... Parce que, bon, on a passé la nuit ensemble, on a fait de l'amour, tout ça, et on est restés ensemble jusqu'au lendemain après-midi, 16h. Mmh. Et après, on s'est quittés. Et après, j'ai plus de ses nouvelles, quoi.
D'accord.
Voilà. Mmh. Et donc, moi, j'ai décidé de faire Du coup, là, j'ai réagi de faire passer le test du VIH, mais je suis passée par ma gynéco.
Ouais.
Je suis allée la voir et elle m'a dit OK pour le VIH et elle m'a dit, ausculté.
Ouais.
Et elle m'a dit non, je vois pas l'intérêt de faire le test des IST, quoi.
Mmh. Et là, ce que tu disais, hein, les médecins et l'entourage, enfin socialement, les lesbiennes n'ont pas de sexualité à risque. Enfin, c'est ce qu'on renvoie facilement et c'est quand même dommage de devoir batailler pour savoir si on est en bonne santé ou pas, si on court des risques ou pas, si on fait prendre des risques ou pas.
Bah ouais, mais c'est super naze. Et en plus, ce soir à la manif de Paris de Journée mondiale de lutte contre le sida, il y avait presque pas, beaucoup moins de femmes que d'hommes et mm-hmm. presque pas de lesbiennes. Enfin, moi, je suis assez militante. Enfin, ça fait 11 ans que je milite et tout ça, depuis que j'ai 17 ans. Mm-hmm. J'ai pas vu une seule copine dans la manif. Les filles queer que tu vois dans le Marais et tout ça, ou tu vois, ou dans toutes les soirées branchées, j'en sais qui ont joué dans Too Much Pussy, et qui pourraient avoir du poids parce que c'est pour certaines c'est sex workers et tout ça, et ben non. Je les ai pas vues, quoi. Alors mmh. qu'elles habitent Paris, que... Enfin... Mmh. Ouais, bref. Enfin, je trouve ça dingue. Donc voilà. Donc ma gynéco, en tout cas, elle a pas voulu.
Ouais.
Donc je me suis dit... je me suis fait décourager. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? Et puis le lendemain, je suis allée à une exposition qui était à Place de la Bastille. Et qui s'appelle Expo Sex in the City,
ouais.
et qui est sur la sexualité homosexuelle, hétérosexuelle, bisexuelle, ouais. Il y avait un truc sur par rapport aux IST, par rapport au VIH, par rapport aux hépatites, par rapport aux... j'ai discuté avec une bénévole là-bas,
ouais.
qui m'a donné une petite brochure d'ensemble qui s'appelle le 190.
Ouais.
Et qui m'a dit écoute, si tu veux, va là-bas et là-bas on te fera les dépistages, quoi.
C'est un centre de santé communautaire.
Ouais, Bon, on en avait déjà parlé une fois à Calibre. On mettra en lien de cette émission, l'émission où on en a parlé, pour que les personnes qui ont envie de savoir plus ce que c'est puissent le... Mais bon, toi, tu peux continuer à raconter comment ça s'est passé quand tu es allée là-bas.
Eh bien, en fait, j'ai eu un rendez-vous du jour au lendemain. Donc ça, c'était super rassurant. Mmh. Voilà. Ils étaient accueillants et tout. Quand j'ai été reçue, c'était pas trop froid, parce que j'étais pas non plus super à l'aise. Et en fait, ils m'ont dit la même chose que mes amis. Enfin, l'infirmier qui m'a reçue m'a dit ok, vous allez faire le test de toutes les IST, mais franchement, j'en vois pas vraiment l'utilité, quoi.
Ah ouais.
Voilà. Donc j'ai trouvé ça dingue. Et il me dit, allez vous retourner en salle d'attente et vous allez voir un médecin. Ouais. Lui, il a pris ma carte vitale, il m'a enregistré tout ça. Parce que le 190, par contre, c'est pas anonyme. Mmh. Et après, j'ai vu
un médecin.
Le médecin a essayé de parler un petit peu plus avec moi des pratiques qu'on avait eues et tout. Et elle m'a rigolé en me disant, de toute façon, vous n'avez pas mélangé votre sang. Et là, elle m'a trop énervée. Donc, je lui ai menti et je lui ai dit, on a fait l'amour quand ma copine avait ses règles. Et voilà. On ne s'est pas protégé. Moi, j'avais une coupure au doigt. C'est très bien possible.
Voilà. En fait,
elle m'a vraiment saoulée, quoi.
T'as été obligée de mentir à force de découragement de la part des gens, quoi.
Ouais, oui, oui, c'est ça. Enfin, vraiment. Voilà, parce que elle aussi, elle en voyait pas trop d'intérêt. Mmh. Et finalement, j'ai revu la première personne qui m'avait inscrite, donc l'infirmier. On a fait les prises de sang et tout ça. Et pour un dépistage, alors je sais plus c'est lequel, il faut utiliser... en fait, on m'a dit ce sera un autodépistage.
Ouais. Là, je connais pas ça.
Ça consiste en quoi?
C'est un autodépistage. C'est pour une MST en particulier?
C'est pour une MST en particulier, mais je sais plus le nom de l'MST, ou je sais pas si on me l'a dit. C'est juste avec un bâton coton-tige assez long. Faire 3 cercles autour de l'entrée du vagin.
On dirait un rite vaudou.
Ouais. Et donc, en fait, l'infirmier est un peu perplexe. Il m'a dit, mais la médecin, elle te l'a pas fait. Je lui ai dit, non, elle m'a dit que c'était un autodépistage. Il m'a fait, d'accord. Donc là, j'ai compris qu'il y avait un froid entre les deux, normalement, ça aurait dû être elle qui a dû me le faire. Il m'a dit, va dans les toilettes, je t'attends et reviens, quoi. Et c'est des toilettes super crades. En plus, il faut, une fois que t'as fait tes 3 tours autour du col du vagin, il faut le mettre dans un tube avec une solution qui change de couleur. Je savais pas comment poser. Par terre, c'était mouillé. Je savais pas où poser les choses.
Wow.
Et quand j'ai voulu faire mes 3 sacs, c'est une tige qui est longue, mais que tu casses après pour pouvoir que ça rentre dans le tube, en fait, parce que le tube est plus petit. Et ça s'est cassé un peu à l'intérieur de mon vagin, quoi. Donc après, c'était la mission pour le récupérer.
Parcours incroyable.
et après je suis revenue dans la salle d'examen et j'ai donné mon échantillon et voilà, quoi. Par contre, humainement, l'infirmier que j'ai vu, il était super sympa. Il m'a dit vous aurez les résultats après-demain. Enfin, ça tout se fait en 2 jours, donc ce que je trouve assez rapide.
Ouais.
Parce que qu'est-ce qu'un faux sida, c'est une semaine par exemple. Et voilà, et donc je vais aller chercher mes résultats demain.
Ah okay. On faudra nous rappeler la semaine prochaine parce que
un long parcours pour connaître. Ouais, c'est juste savoir si tu vas bien. Enfin, connaître son statut sérologique ou c'est un droit quoi. Enfin, je sais pas. Même si, enfin, qu'on ait pris des risques ou pas, et avec quelle mesure on. On peut connaître ses risques ou pas. Enfin, c'est vrai que là, ce que tu racontes, ça fait appel au fait que bah ouais, on considère que les lesbiennes, bah, elles prennent jamais de risques. On considère que du coup, ben, bah, ça vaut pas le coup de faire des tests. Du coup, on connaît pas le statut de santé. Enfin, je sais pas. C'est dans la base après de la discussion avec nos partenaires, de savoir ben, comment est-ce qu'on prend des risques ou pas, et en fonction de si on prend des risques ou pas, faire des choix en conséquence. Et quand même, c'est tout ce parcours là que tu racontes, quand même, je te trouve courageuse d'avoir réussi à persévérer et à aller de médecin en médecin comme ça pour avoir des informations sur ton corps, quoi. Enfin, c'est quand même assez.
Moi, j'ai envie de rajouter plus globalement. Je pense que de toute façon, les médecins, ils considèrent rarement que tu sais, toi qui sais ce dont tu as besoin ou quoi. Et donc, en fait, on te demande toujours de te justifier de tout un tas de trucs. Et du coup, effectivement, tu te retrouves à devoir expliquer en détail les pratiques que tu as eues pour voir si oui ou non c'est légitime de faire des tests, quoi.
Enfin, c'est quand on voit que. Je pense que le vrai a priori de ma gynéco est que. Moi, j'ai jamais couché avec un homme de ma vie. J'ai ma vie sexuelle a commencé directement avec des femmes, en fait.
Ouais.
Et donc elle trouvait que c'était un comportement encore moins à risque. Et voilà. Et en plus, je suis allée la voir aussi parce que j'avais mal au vagin. Donc j'étais super inquiète parce que ça me brûlait. J'en étais à mettre des pantalons d'été super larges ou, et vous savez, les pantalons de taille.
Ouais.
Voilà, enfin bref, ou en tout cas pas de jean et tout ça. Et il fait un peu froid en ce moment. Et elle m'a dit oh non, mais c'est juste une sécheresse vaginale. Et franchement, je crois que c'est ça qui m'a décidé à me battre, parce que je me suis dit j'en sais rien, quoi. Là, j'ai mal, ça fait. Je sais pas ce que ça peut être. Et voilà, quoi.
C'est vrai que c'est un peu léger de s'entendre dire ça.
Sinon, ce que je voulais dire, c'est que, ouais, aucune de mes partenaires ne m'a jamais proposé de qu'on se protège pour faire l'amour. Ça m'est jamais arrivé. Quand je propose, évidemment, ouais, jusqu'à maintenant, j'ai jamais vraiment insisté. Genre, elles font les filles soit intéressées, soit elles rigolent, et puis on s'en fait pas. Et pourtant, je suis vraiment de la génération sida, parce que je suis née en 82 et que ça a été découvert en 81 et que des capotes à 1 franc, j'ai connu ça toute mon adolescence, même si ça me concernait pas et que moi je baisais pas avec des mecs, il y avait la réelle conscience politique derrière en tout cas.
Ouais, mais c'est ça, c'est que la génération sida et toute la communication qui a été faite, enfin c'est vrai, on trouve des capotes gratuites partout, on nous signifie que c'est pour la pénétration vaginale ou anale et en fait on... Je crois que la communication qui est faite aussi là-dessus, c'est que ben le sida, c'est les personnes hétérosexuelles ou les PD qui ont des risques de le choper. Enfin, et c'est comme ça que c'est communiqué en fait. Et ce rapport aléatoire à la toute puissance de la médecine ou de, en fait, vu l'état des études aujourd'hui et des recherches sur les transmissions des IST chez les lesbiennes, en effet, peut-être qu'on, enfin. Il y a quand même plein de zones floues sur les risques pris par les femmes dans ces situations-là, quoi. Et c'est alertant, quand même.
Ouais, c'est quand même alertant.
Et moi, je voulais te demander, est-ce que tu connais la brochure qui vient de sortir ?
Tomber la culotte.
Tomber la culotte, ouais.
Ouais, je l'ai vue au festival Film Gay Lesbien à Chéri Chéri.
D'accord.
Elle est bien, cette brochure. Ouais, ouais.
Bah, c'est peut-être du coup une brochure aussi à mettre dans la main de tes copines.
Non, mais sans rire, je l'ai donné à ma copine à lire le deuxième jour où on s'est vu, quoi. Donc ça a pas changé grand chose.
Ah,
mais le truc que je me demande en fait, c'est une fille qui m'a dit quand même que notre relation manquait de légèreté et qu'elle aspirait à la légèreté et tout ça. Sous-entendu, je pense que la monogamie ça la saoulait et qu'elle préférait la polyamorie ou. Voilà, et pour moi c'était plus dur.
Ouais.
Mais bon, elle m'a pas vraiment laissé le temps d'en décider, vu que voilà, ça fait 3 semaines que j'ai pas de nouvelles du jour au lendemain, quoi. Ouais, en tout cas, je sais que si je. Enfin, que j'ai son mail et j'hésite à lui envoyer mes résultats demain, à scanner et à lui envoyer. je sais pas. D'un côté, c'est peut-être bien comme ça, genre de se dire, bon, c'est vraiment une fille qui en valait pas la peine.
Ouais, c'est d'abord pour toi que tu l'ai fait les résultats.
Voilà, exactement. Mmh. Et d'un autre côté, je sais pas, c'est peut-être un côté lui dire, tu vois, c'était pas si difficile que ça, ou je sais pas.
Moi, j'ai l'impression que c'est en effet, enfin, là, dans le récit que tu faisais, là, sur le début de ton récit, quand tu racontais un peu les différents éléments de comment a démarré cette relation, comment les choses se sont négociées entre vous, il y a peut-être des choses à voir avec elle. Enfin, là, je parle du coup plus globalement sur comment cette relation elle est concertée, sur les choix que vous avez à faire ensemble, de ce que vous avez envie de vivre ensemble, parce qu'il y a quand même pas mal de zones où t'as. Moi, je ressens que tu t'es senti bloqué ou piégé sur des protections, pas protections. Elle se moque quand tu sors la digue dentaire. Enfin, je veux dire, la discussion, elle est limitée, quoi. Et je me dis, ah tiens, ça vaudrait le coup de peut-être de voir ce qui est consenti ou pas, et puis de voir si vous êtes sans divergence ou pas.
C'était dur parce que elle me disait, pour moi, Enfin, je pense que j'étais un peu dominée dans la relation et que si c'était elle qui me donnait du plaisir, me faisait l'amour et tout ça, déjà on n'a jamais réussi à être en connexion pour baiser en même temps, enfin faire l'amour en même temps, voilà, c'était elle s'occupait de moi ou je m'occupais d'elle. Mm-hmm. Et voilà, et du coup, quand elle me faisait l'amour, il n'y avait pas de problème, elle voulait bien utiliser les protections et tout ça. Et quand c'était à moi de lui donner du plaisir, mm-hmm. elle me disait fais le cunis sans digue dentaire, il n'y a pas de problème et tout ça. Et je. Et moi, je lui ai expliqué, si, le problème, c'est que c'est muqueuse contre muqueuse et que je prends autant de risques que toi.
C'est
là, il y a quand même un problème, tu vois.
Peut-être il faut lui. Enfin, je sais pas si du coup elle est aussi au jus que toi de comment les infections se transmettent, par quelle,
si
quelle muqueuse,
les pores d'entrée. Je sais pas.
Je sais pas. Mais du coup, la brochure là dont on parlait, je la trouve pas non plus très très explicite sur techniquement les modes de transmission concrets. Enfin, il y a certaines infos qui sont peut-être un peu plus détaillées dans Gouix, par exemple, où il y a quand même chaque infection, comment elle s'en transmet, par quel fluide corporel. Du coup, moi, en lisant Gouix, par exemple, je me suis rendu compte que cette histoire de porte d'entrée des infections et de comment elles se transmettent et par quel fluide. Et ça m'avait tout de suite mieux fait comprendre, quel risque je prenais dans quelle pratique. Et de me projeter plus facilement à comment me projeter dans ma sexualité en fonction des pratiques que j'avais. Et ce qui n'est pas le cas quand on parle juste de sida égale capote, pour une lesbienne, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Enfin,
alors du coup, les portes d'entrée, ça va être tout ce qui est muqueuse, donc la bouche, la vulve,
les plaies,
l'anus, Et tout ça. Et
Je mettrai des infos sur Gwix pour le site. Hein.
Ouais.
On n'a non plus beaucoup de temps pour,
ouais,
ce soir.
Ouais. Mais c'était juste parce que du coup, tu disais porte d'entrée et fluide. C'était, voilà, et les fluides, ça peut être salive, cyprine, qui est la mouille, le sperme.
Le sang.
Oui, j'oubliais le sang.
Oui, ouais. qui existe. Oui, le sang.
En tout cas, moi aussi, ton histoire, elle me fait réfléchir. Enfin, on n'a peut-être plus le temps vraiment d'en parler ce soir, mais si toi, tu as envie d'y réfléchir et puis de nous rappeler aussi à ce sujet, aux stratégies qu'on peut avoir pendant un rapport sexuel pour se protéger ou pour arriver à faire accepter à l'autre, à son ou à sa partenaire, d'utiliser des moyens de se protéger, quoi. Mm-mm. Parce que c'est pas simple, en fait. Des fois, on teste et puis ça marche pas. C'est pas simple.
Ouais, c'est clair. Et puis, ce qu'elle a compris dans l'histoire, c'était que, aussi, si je voulais qu'on fasse ensemble le test du VIH, c'était que j'avais pas confiance en elle et que je la traitais de salope parce qu'elle m'avait raconté son passé de vie sexuelle et tout ça. Et voilà, alors que c'était pas ça le problème, c'est que je pense que en 5 ans, on peut pas se souvenir de tout. Il y a peut-être une possibilité qu'un jour une capote elle craque, ça peut arriver. Et c'est juste ça, quoi.
Oui, puis le fait qu'elle veuille pas utiliser une protection avec toi, ça peut aussi vouloir dire qu'elle a pas toujours utilisé une protection. Enfin, voilà, quoi. Puis grave. C'est pas.
Le contraire à dire. Si, je me suis toujours protégée. Tu te rends compte même que certaines fois, je faisais des fellations à des mecs qui avaient un préservatif. C'était certaines fois, quoi. Et j'ai discuté avec une copine qui bosse au planning familial, elle m'a dit ouais non mais ça doit être tout le temps parce qu'il y a le, je sais pas comment ça s'appelle, le liquide séminal qui sort au tout début de l'érection, qui est le plus transmissible en fait de par rapport au VIH et tout ça. Bon voilà, mais merci beaucoup.
Merci à toi.
N'hésite pas à rappeler parce que j'ai l'impression qu'on coupe court à la conversation parce que c'est la fin de l'émission, mais je pense qu'on aurait de quoi discuter encore un bon moment.
Ouais, mais en tout cas, j'adore votre émission, moi, j'écoute. Puis, on t'entend grâce à une ex qui vivait à Grenoble.
On va te repasser Marina en technique.
Merci.
Et bonne soirée.
Bonne soirée.
Au revoir. On a dépassé largement l'heure de l'émission, mais c'est pas grave, hein, quand on a la passion de la discussion, et ben voilà, hein, c'est pas très très grave. Peut-être juste avant de conclure, on pourrait quand même annoncer peut-être au moins demain.
Demain.
Oui, au moins c'est demain. Important. Alors qu'est-ce qui se passe demain ?
Ben demain, il y a les rencontres radio-rageuses qui démarrent à Lyon. Et du coup, on sera à Lyon sur Radio Canu de 20h à pas d'heure.
Ouais.
Voilà, avec tout un tas d'autres collectifs d'émissions de radio féministes. Voilà.
Féministes de Gwyn et de femmes. Parce que, en fait,
et de trans.
Et de trans. Parce que du coup, Radio Rageuse, c'est un réseau, une nébuleuse d'émissions de Toulouse, de Marseille, de Lille, de même de Bruxelles, de Lyon, de Saint-Étienne, de Grenoble. Donc, ce sont des émissions parfois faites par des féministes, parfois par des femmes, parfois par des trans, parfois par des gouines. Voilà. Et donc, on se retrouve. Calib fait partie de ce réseau-là, et on se retrouve à Lyon et on fait un direct demain soir sur la thématique rebelle au quotidien. Donc c'est Radio Canu, si vous êtes sur Lyon, c'est 102.2, et sinon ils ont un site internet où on peut écouter en direct sur radio.canu.free.fr. voilà, on était le 1er décembre 2011. Ce soir, c'était Myriam et Marina à la technique, et Émilie et Mélanie au micro. C'est avec regret qu'on vous quitte. À la semaine prochaine.
Allez, salut.
Corps,
amour, sexualité.
Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope. Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.